Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette troisième émission déjà de la Fédération France Nature Environnement 04. Bonjour Martine Vallon.
Bonjour.
Vous êtes présidente de cette fédération et c'est une fédération qui défend l'environnement. On va rappeler ses missions.
Oui, alors effectivement, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions et puis pour tous ceux qui nous rejoignent, donc France Nature Environnement est une grande association française de défense de l'environnement et nous sommes une des branches locales, je dirais, de cette association-là, donc fédération départementale. Notre existence est ancienne déjà, au niveau du département aussi, donc nous étions Union départementale Vie et Nature, donc, et nous avons maintenant pris le logo et l'intitulé France Nature Environnement pour plus de lisibilité. Bon, bien sûr, notre vocation première, c'est la défense de l'environnement, avec toute une historique, effectivement, qui était beaucoup liée au recours en justice et aux affaires juridiques. Donc, nous continuons sur ce plan-là, avec une veille juridique qui est portée par notre réseau sur l'ensemble du département. Et puis, des affaires, parfois, qui nous conduisent à porter plainte et à aller donc vers les tribunaux. Nous avons aussi beaucoup évolué donc au niveau de la fédération départementale sur l'ensemble d'autres formes d'action, je dirais, qui étaient jusqu'à présent beaucoup moins utilisées. Donc on informe, on a un devoir d'information. Donc sur, bien sûr, sur l'évolution de la législation, sur les normes, sur tout ce qui peut permettre aux citoyens de comprendre ce qui se passe et éventuellement d'agir lorsque quelque chose ne convient pas par rapport à l'environnement. Nous avons aussi un aspect, une mission de lien entre les administrations, les organisations publiques ou les élus et le public. Donc on fait un peu parfois la traduction, je dirais, la traduction des textes en termes un peu plus compréhensibles. Nous participons à des commissions administratives et des commissions de tout genre où nous donnons l'avis, nous sommes les représentants d'une société civile et nous essayons de porter cette parole-là et de donner des avis en fonction de ça. Voilà, et donc au milieu de toutes ces actions aussi, et pour engager tout ça, bien sûr, on a besoin de nos bénévoles. Nous fonctionnons à la fois en tant que fédération associative, c'est-à-dire que ce sont des associations locales qui adhèrent, et nous leur apportons un accompagnement, un suivi, une aide sur leur action. Et puis nous avons aussi des membres individuels, parce que effectivement parfois on n'a pas forcément envie de créer une association, mais on a quand même envie d'être entendu et d'agir. Donc voilà, on est sur ces deux axes-là. Et ce qui fait que du coup, on apporte aussi de la formation à nos adhérents et à nos associations adhérentes, aux membres des associations adhérentes. Donc on organise aussi des sessions de formation sur des points spécifiques que peuvent être l'eau, la compréhension des mécanismes, des sorties de terrain, des conférences pédagogiques avec à la fois la balade sur le terrain et puis les explications scientifiques, l'expertise de certains de nos membres qui viennent accompagner le public. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors on est toujours bien sûr à la recherche de nouveaux membres, de nouvelles associations, ce qui nous permet d'avoir, d'être entendu. En fait, l'importance aussi pour chacun d'aider, je dirais, et de faire entendre la voix de l'environnement. Je crois que c'est en étant participant, en donnant sa propre voix, son adhésion à une fédération comme la nôtre, qu'on peut avoir suffisamment de force pour que... Dans certains cas, la vie qu'on va donner aura vraiment son importance et sera suivie.
Combien d'associations adhèrent ?
Alors on a un nombre fluctuant d'associations, dans la mesure où très fréquemment ce sont des collectifs locaux ou des petites associations qui adhèrent, qui s'arrêtent, qui fluctuent, qui reviennent. De la même façon, c'est vrai que souvent, ce qui est un peu dommage, ce sont des gens qui ont un problème à résoudre et qui ne suivent pas par la suite. On aimerait beaucoup plus avoir effectivement un potentiel d'association, je dirais, plus positive parfois, qui ont une action favorable envers l'environnement ou bien qui ont une action dans un autre domaine, mais qui en même temps sont sensibles à ces questions-là et veulent un peu se perfectionner, s'informer sur ces questions. Donc on est ouvert à toute forme d'adhésion. Et on est aujourd'hui effectivement sur un de ces axes d'information. Sur le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui.
Alors, on va revenir justement sur les deux précédentes émissions, puisque vous avez abordé les problématiques de l'eau, autour de l'eau, et la seconde émission, les contrats de rivière, qui ont leur importance. Et aujourd'hui, donc, ça va être encore... je ne sais pas si vous voulez revenir sur sur les deux émissions précédentes.
Redire un petit peu. Donc, effectivement, le premier thème choisi, le générique, je dirais, pour ces émissions, a été pour moi évident, puisqu'on est arrivé en saison de fin de printemps et que l'eau est un des éléments aujourd'hui qui prend de plus en plus d'importance, que l'eau, c'est vraiment la base de la vie. Et sur notre département, c'est une problématique qui revient régulièrement en période d'été. Donc l'idée était en effet d'apporter un certain nombre d'éléments d'information aux gens sur quelle est la réalité concrète autour de ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de gouvernance pour prendre en compte la question de l'eau en France ou bien chez nous sur le département, et quelles sont toutes les mesures qui existent, auxquelles on peut faire appel, ou bien les choses qui seraient importantes de connaître justement pour supporter, je dirais, les gens qui mettent en œuvre ces mesures et pour aider à la limite à ce que cette ressource soit correctement utilisée, soit protégée, soit valorisée et dont on puisse conserver à la fois la quantité. Elle dépend évidemment des pluies et d'éléments qu'on ne peut pas diriger, qu'on ne peut pas gérer. Mais par contre, la qualité, on a beaucoup à y voir. Et donc, sur les émissions précédentes, l'idée était de montrer le fonctionnement de la nature, je dirais, donc l'apport de la forêt concernant l'intérêt pour la propreté des rivières ou pour l'existence de l'eau dans le sol, etc., pour le cycle, la mise en place d'un cycle. Et puis, dans un deuxième temps, donc ce qui concerne la gestion et comment aujourd'hui est considérée la ressource en eau, l'importance aussi d'observer les choses à l'échelle des bassins versants. Et comment on peut mettre en place des actions qui permettent de partager cette ressource importante et de la préserver. Et donc l'idée était aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes, donc il y a les plans d'action qui sont les arrêtés sécheresse, par exemple, qui sont en cours à l'heure actuelle sur notre département, donc avec état de vigilance, état de risque aujourd'hui, donc avec des mesures qui sont prises par arrêtés préfectoraux. Donc ces mesures-là sont destinées à préserver la quantité et à organiser le partage de l'eau, donc avec des priorités qui sont données à certains utilisateurs, bien entendu, dans la mesure où il est plus important d'arroser un jardin ou bien une exploitation en maraîchage plutôt que de laver sa voiture. Donc on a là des priorités qui sont organisées. Et ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est une autre partie qui est la question de la qualité. Puisque, effectivement, quand on a une diminution des quantités, on a forcément une concentration des produits et donc des polluants potentiels. Et on est là, du moins, dans une surveillance nécessaire et aussi des actions et des mesures à mettre en place. Qui doivent l'être à travers ce qu'on appelle la directive nitrate, entre autres. Hein. Mais je voulais parler aujourd'hui plus particulièrement de cet aspect-là, donc directive nitrate, qui est une directive européenne qui entraîne un certain nombre de mesures à mettre en place localement.
Et donc, dont on parlera juste après une pause musicale, Martine Vallon. À tout de suite, on écoute Claude Nougaro, « La pluie fait des claquettes » et on retrouvera eh bien, le problème des nitrates dans un instant. À tout de suite.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. La pluie, avec elle je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi, la tempe sur le titre du poème ennemi. À force de rasade, de tournée des grands ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. La pluie. minuit.
La pluie fait des claquettes, nous chantait Claude Nougaro et nous retrouvons Martine Vallon, présidente de la Fédération France Nature Environnement 04 pour cette troisième émission sur le thème « On poursuit avec l'eau » et on a vu donc les problèmes des nitrates avec des condamnations. Qu'est-ce que c'est le nitrate en fait ?
Alors, le nitrate est un composé azote et oxygène. Et donc, essentiellement, la problématique que ça entraîne, c'est que il arrive par l'azote. L'azote, qui est un élément nutritif, qui est issu de qui entraîne la croissance des végétaux. En fait, la plupart des problématiques le nitrate vient de l'adjonction et de l'épandage soit d'azote fertilisant chimique, soit des effluents d'élevage, les lisiers par exemple. On sait que par exemple en Bretagne, la question des nitrates est vraiment un problème extrêmement important, qui est à l'origine d'une croissance des algues, d'algues vertes dans la mer. Le fonctionnement, si vous voulez, c'est si l'on apporte sur un sol une quantité trop importante de nitrate, d'azote, les plantes n'auront pas la capacité d'assimiler la totalité. Et donc, les pluies qui vont tomber vont lessiver le sol et emporter cet azote dans les rivières, ce qui va entraîner donc une croissance d'algues et une eutrophisation aussi, une diminution d'oxygène, une perturbation de la vie de la rivière. Et sur la mer, même chose, la rivière arrivant à la mer apporte cet azote qui va favoriser la croissance des algues vertes, et avec tous les problèmes que ça entraîne par la suite. Alors, les nitrates, il y en a de façon naturelle dans le sol, dans l'eau. Enfin, c'est un fonctionnement naturel, je dirais. Mais, par exemple, dans l'eau potable, il y a une certaine quantité de nitrates. Ça n'empêche pas une eau d'être déclarée potable. Maintenant, il y a une norme qui est établie, qui fait que effectivement, au-delà d'une certaine quantité, il est considéré que l'accumulation des doses peut entraîner évidemment des difficultés en termes de santé. Donc, dans un état naturel, peut-être qu'aujourd'hui, dans l'état naturel, ça a augmenté, mais on était à quelque chose comme 1 mg par litre. La norme de potabilité aujourd'hui est de 50 mg par litre. Donc on est sur un niveau acceptable. Sachant que un des soucis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pressions pour que cette norme soit révisée. Donc là, on est là déjà dans une question de remise en cause d'une norme et donc d'acceptation d'une pollution plus importante, ce qui est un vrai problème. Aujourd'hui, donc, la pollution au nitrate, c'est plus de 60% lié à l'agriculture, mais c'est aussi l'industrie, 12% pour notre département, on n'est pas vraiment concerné sur cet aspect-là. Mais par contre, il y a aussi 22% qui est dû à l'impact des collectivités locales, c'est-à-dire le fonctionnement des stations d'assainissement. Et donc là, on est, grandement concerné sur notre département.
22% de pollution au nitrate.
Au nitrate,
voilà. Par les collectivités.
Voilà. La responsabilité des collectivités, là, est importante. Le bon fonctionnement d'une station d'épuration entraîne ou pas l'impact direct sur l'état des rivières. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, donc concernant la directive nitrate, elle est essentiellement axée sur l'agriculture, c'est-à-dire l'impact de l'agriculture, et donc elle établit un certain nombre de mesures qui sont destinées à diminuer les quantités d'azote qui vont entrer dans les sols et aller vers les eaux. Donc ces mesures-là sont effectivement des contraintes pour la profession. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement des négociations qui sont en cours parce que un des premiers éléments de la directive, c'est de décréter des zonages, donc des zones qui sont des zones vulnérables. Ces zones vulnérables sont définies en fonction d'un certain nombre de mesures, des points d'eau ou des nappes, donc des sources ou des eaux de surface aussi, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements, et on mesure les quantités de nitrate et à partir de là, on définit telle ou telle zone comme étant une zone vulnérable. Donc la Commission européenne, la directive prévoit que chaque pays donne la liste de ces zones vulnérables. Ce qui entraîne un certain nombre de négociations, parce que effectivement, si on est déclaré zone vulnérable, il va falloir surveiller certaines pratiques et poursuivre le suivi des sources et de l'état des eaux. Donc les zones sont définies donc en fonction de ces mesures et elles entraînent des prescriptions. Donc par exemple des prescriptions d'épandage restreintes. Donc, à certains endroits, il est défini une quantité d'azote maximale à apporter aux terres. Et donc, pour certains agriculteurs, ça peut être une difficulté dans la mesure où ils souhaiteraient, où ils estiment que le terrain n'est pas suffisamment propice aux plantations et qu'il faudrait rajouter encore de l'azote. Cela entraîne aussi une autre mesure, c'est aussi une limitation dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où les épandages sont interdits. Donc évidemment, ça entraîne de nouvelles contraintes. Ensuite, il peut y avoir, concernant les stockages des effluents, il y a aussi là des précautions à prendre pour que effectivement il n'y ait pas de d'épandage en période où ça peut être lessivé par les pluies et aller directement dans les rivières. Voilà, donc tout un ensemble effectivement de mesures qui impacte le travail des agriculteurs et qui fait qu'à certains moments, ils estiment que c'est pour eux trop contraignant, que ça limite trop les rendements, par exemple, que c'est susceptible de limiter les rendements et que donc ça perturbe leur fonctionnement. Certaines autres mesures sont, par exemple, au niveau de la protection des rivières, il est obligatoire de laisser une bande qui sera enherbé et qui ne sera pas fertilisé. Donc on reste un peu loin de la rivière pour éviter que l'azote pénètre directement. Donc tous ces aspects-là, effectivement, font qu'à certains moments, on a des dissensions et que entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, il peut y avoir aussi un certain nombre d'éléments sur lesquels les accords ne se font pas. ce qu'il faut savoir pour nous citoyens, c'est que à l'heure actuelle, la France a été mise en justice par l'Europe sur cette question-là, parce que effectivement, on n'a pas observé les directives et que l'évolution de l'état des eaux ne s'est pas faite correctement, que les mesures démontrent qu'on n'a pas mis en place toutes
les mesures
nécessaires, enfin toutes les actions nécessaires pour rétablir l'état des eaux. Et donc, on a des indemnités à payer, on a des astreintes importantes donc, hein, qui se chiffrent vraiment en millions d'euros.
Oui.
À l'heure actuelle, les zonages et donc les listes de villages proposées dans le cadre de cette directive, donc proposée comme zone vulnérable, on est encore, parce que les négociations sont difficiles entre l'État et la profession agricole, on est encore en diminution sur le nombre des villages qu'on est censé déclarer vulnérables. Donc c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté aussi parce que je crois que les élus, les responsables des collectivités ne se rendent pas compte du rôle qu'ils ont à jouer dans ce domaine-là. Très souvent, pour en avoir discuté avec des élus, ils voient comme une sorte de punition le fait que leur village soit déclaré zone vulnérable. Or, c'est pas en ce sens-là, en fait. C'est pas être déclaré zone vulnérable, ce n'est pas être stigmatisé. C'est simplement dire attention, il y a là un impact fort de certaines pratiques, et donc il est important de surveiller ça et d'éviter que les choses s'aggravent. Parce que la pollution au nitrate est particulièrement grave, je dirais, dans la mesure où, aujourd'hui, en termes techniques, il n'y a pas de possibilité de dépollution à grande échelle. C'est-à-dire, on peut effectivement envisager une dépollution d'un litre d'eau s'il a trop de nitrate, mais organiser une dépollution comme ça se fait pour, une station d'assainissement sur des bactéries, etc., c'est très simple et ça se fait sans souci. Sur les nitrates, la seule solution aujourd'hui, c'est on abandonne la source. Et donc, sur le département, il y a déjà des sources qui ont été abandonnées pour cause de pollution aux nitrates. Donc ça veut dire que ça, c'est du long terme après. On peut trouver une autre ressource. Bien sûr, on va pomper dans la rivière et on assainit l'eau de la rivière et à ce moment-là, on potabilise et tout va bien. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement grave, je pense, que d'être contraint d'abandonner la source d'un village. Et d'autant plus que, sur certaines rivières, aujourd'hui, certaines rivières diminuent, les quantités d'eau vont aussi poser problème. Donc c'est vraiment, une vision extrêmement court terme que de se dire, je mets la poussière sous le tapis, je referme et puis on n'en parle plus. Et demain, les générations futures géreront la question.
C'est vrai que ça, c'est pas rien d'abandonner une source, quoi. Et sachant justement que on n'a pas vraiment beaucoup, beaucoup d'eau dans le département, par exemple.
Oui.
Il y a beaucoup de sources qui ont été abandonnées pour cause de pollution nitrate.
À ma connaissance, au cours de ces quelques dernières années, il y aurait pas loin d'une dizaine de sources qui ont été abandonnées. Et donc, ça qui était des sources qui alimentaient
les villages.
Des villages ou des hameaux. Donc, c'est quand même important pour nous. Et donc, sur le département, il y a effectivement des zones qui sont concernées sur ces questions de pollution et donc des zones qui sont déclarées vulnérables, notamment le secteur plateau de Valensole, enfin, Oraison, enfin bon, et sur des relevés qu'on a fait, nous, par rapport à des analyses qui étaient faites par les services de santé, l'ARS, etc., donc des, ou la DREAL, donc des relevés qu'on a pris pour l'ensemble du département, on sait qu'il y a eu des dépassements de la norme sur certains points d'eau, sur certaines sources ou sur certains points d'eau, d'eau superficielle aussi. Avec des analyses qui ne sont pas bonnes. Donc, plutôt sur le secteur sud du département, bien entendu. Donc, c'est vrai que, sur ce plan-là, je crois qu'il est important que la population sache aussi qu'est-ce que ça signifie, enfin, et quelle peut être la conséquence d'une pratique qui se poursuit en termes de culture, par exemple, et qu'est-ce que ça peut entraîner sur leur vie future aussi, et peut-être que parfois, que les élus se rendent compte aussi que, bien sûr, il est important de conserver une agriculture, de conserver une population agricole, ça fait partie de la vie et de la richesse du département, que la ressource en eau, elle doit aller en priorité à la production alimentaire, bien entendu, mais en même temps, qu'il est essentiel que chacun prenne en compte les dangers de certaines pratiques et que pour nous, bien sûr, l'agriculture, en termes de besoins, ça doit arriver avant les voitures à laver ou les piscines à remplir, c'est évident. Mais en même temps, il est essentiel de préserver la qualité de l'eau. Et il est essentiel de mettre en place ce qui permet de préserver cette qualité et d'en être bien conscient aussi. Je veux dire, la qualité de l'eau, c'est la ressource, c'est l'eau potable, c'est aussi la vie dans les rivières. Et ça aussi, je veux dire, l'eutrophisation qui est liée à la pollution par les nitrates, ça entraîne en effet une déperdition d'une grande quantité d'espèces vivantes, animales ou végétales. Donc voilà. Et je voudrais aussi deux mots sur la nécessité de surveiller les stations d'épuration et bien sûr. Ce sont des structures coûteuses, ce sont des dispositifs qui sont parfois compliqués, surtout sur notre département, de gérer. Par exemple, une des difficultés, c'est la fluctuation de population. Sur le département, on a, dans certaines communes, une population qui est multipliée par 100 en période d'été. Donc, effectivement, des dispositifs qui ne fonctionnent pas forcément toujours très bien. Et donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important à prendre en compte et à surveiller.
Donc nos stations d'épuration dans le département sont surveillées de près. Est-ce qu'il y a des alertes
hein? Oui, bien sûr. Il y a des analyses régulières qui sont faites. Il y a effectivement une surveillance. Ceci étant, la police de l'eau, aujourd'hui, était en nombre réduit, par exemple. Donc, effectivement, il n'est pas toujours facile de faire les analyses ou les prélèvements ou d'intervenir. Bon, on alerte parfois, nous aussi. Je veux dire, on a oui, une sorte de mission de surveillance à certains moments aussi. Et donc, il nous arrive d'être interpellés par quelqu'un qui s'aperçoit que la rivière, à un certain moment, est polluée, etc. Et donc, on intervient à ce niveau-là. On est en procédure à l'heure actuelle contre certaines communes sur ces plans-là. Mais on peut pas non plus tout faire et parfois les communes ne jouent pas le jeu et c'est dommage d'en être arrivé à aller en justice sur ces questions-là.
L'heure tourne, Martine Vallon. C'est très intéressant tout ce que vous nous apprenez. On va peut-être voir déjà les projets puisque vous avez un agenda chargé en septembre avec des missions, des projets, des événements. Quels sont-ils ?
Oui, alors c'est vrai que je voulais, avant de terminer, effectivement aborder un peu notre agenda de septembre. On a un mois extrêmement chargé. Et donc, ça sera aussi, je pense, l'occasion pour les auditeurs de venir nous rencontrer. Donc, le premier rendez-vous, eh bien, c'est samedi.
Celui-là,
celui-ci,
le 3,
voilà, le 3,
au Forum des
D'accord. associations à Digne, bien mm-hmm. sûr. Donc là, effectivement, je serai, moi, sur le stand avec un ou deux administrateurs. Et donc, bien, nous serons ravis de rencontrer les citoyens, oui. de futurs adhérents, mm-hmm. On en rêve, et puis peut-être des auditeurs qui viendraient me dire un peu aussi ce qu'ils attendent peut-être d'une émission sur l'environnement. Dimanche, nous sommes sur Château Arnoux à la fête du pain, avec une exposition sur le gaspillage alimentaire. Donc là aussi, des administrateurs seront présents et prêts à rencontrer les citoyens. Le week-end suivant, nous participons à la foire bio Ambre. Donc là, on se décentralise, on va sur les Hautes-Alpes. La foire bio d'Embrun, c'est un événement qui est assez important. Et cette année, qui reçoit Vandana Shiva. Vandana Shiva est une indienne qui mène une action une action de soutien et d'accompagnement des paysans indiens contre les multinationales du type Monsanto et autres, et qui lutte contre les trop grands impacts des pollutions par justement les intrants agricoles, et qui soutient les paysans aussi dans leur lutte pour les productions locales et contre les OGM.
Donc ce sera
les 10 et 11 septembre,
d'accord.
samedi et dimanche. Le 10, nous avons aussi quelque chose sur les mets. C'est une rencontre donc avec les bénévoles. C'est la commune des mets organise chaque année la journée des bénévoles, qui est un moyen de valoriser les bénévoles des diverses associations de la commune et de leur rendre hommage. Donc c'est un jour de rencontre entre associations, mais aussi avec les bénévoles des associations qui ne sont pas forcément affiliées. Ensuite, nous avons aussi, à partir du 12, là ça se passera sur Manosque, une grande exposition sur l'énergie et sur le changement énergétique, enfin les choix de fonctionnement nouveau des gens. Et donc cette exposition est un ensemble de portraits de citoyens et de citoyennes qui essaient dans leur quotidien d'agir un peu sur les économies d'énergie, sur l'aide dans l'environnement. Enfin bon, voilà, c'est, je dirais un peu, monsieur, madame, tout le monde qui fait un geste. Donc, cette exposition, à partir du 12, pendant 10 semaines, ça va circuler sur différents points de la ville de Manosque. Donc, on pourra voir sur notre
faire
site.
Notre émission.
Ouais, et puis, peut-être
un reportage là-dessus.
Voilà. Et puis, nous avons les 15 et 16 septembre aussi. Nous organisons sur Man une formation pour nos adhérents, associations ou bénévoles, et qui est sur la question de la forêt et du bois énergie. Donc là, pour ceux qui souhaitent suivre cette formation, il est possible donc d'adhérer à l'association et d'être ainsi invité. Et puis, on participera donc aux 5e rencontres Objectif Nature en Haute-Provence, du 20 au 25, donc sur Château-Arnoux. Donc là, avec une sortie sur le thème de la Durance et Bléone, des rivières sauvages. Et le 24, à Fort-Calquier, pour la journée de la transition citoyenne, nous organisons une animation sur l'alternative aux déchets verts, donc avec une expérimentation du broyage. Et donc on va faire du broyage de déchets verts et expliquer aux gens comment l'utiliser.
Et c'est donc journée de la transition ?
De la transition citoyenne. À Fort-Calquier.
D'accord.
Voilà, et donc ça, ce sera en partenariat avec, j'espère, Fleur de Pierre et le CPIE. Voilà, donc beaucoup d'événements pour ce mois de septembre qui est extrêmement chargé et bon, qui va peut-être, et qui va, je l'espère, et qui va, je le pense, nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de peut-être d'avoir de nouveaux adhérents et de... d'augmenter notre potentiel d'action aussi par ce moyen-là.
Donc, si on veut adhérer, où on s'adresse ?
Eh bien, on peut aller sur notre site internet. Donc, sur notre site, on a une page Facebook aussi. Et là, il y a des liens qui permettent de nous contacter. Et,
donc, la voilà, page Facebook, c'est FN04 ?
Oui. Voilà.
Alors, qui veut dire France Nature Environnement, qui n'est pas d'ambiguïté avec ce début de lettre. France Nature Environnement, FNE04. Donc, .fr, ça c'est votre site, et lien Facebook aussi, où on peut trouver des renseignements. Voilà. L'agenda, on le retrouvera
en
intégralité.
Sur le site. Oui, tout
d'accord.
À fait.
Eh bien, merci. Voilà, on a fait un bon tour. On se retrouve donc pour les auditeurs à tous ces rendez-vous que j'espère vous avez notés, ou en tout cas vous les retrouverez sur le Facebook de France Nature Environnement, FNE04, à savoir déjà le Forum des associations samedi 3 au Palais des Congrès à Digne, et puis ensuite le dimanche. Au cours de l'exposition contre le gaspillage à la fête du pain à Château-Arnoux.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et puis le reste, on en parlera au fur et à mesure. Martine Vallon, merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve en tout cas sur cette même antenne le dernier mercredi du mois de septembre, qui sera le mercredi 28 septembre à 9h15.
D'accord.
Sur cette
D'accord.
même antenne.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci et une très très bonne journée à vous.